Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux.
Les quoi ?
Aujourd'hui, vous avez entendu cette petite voix de cricket qu'on a...
Je me suis souvent fait traiter de plusieurs choses, mais de cricket, c'est clairement la première fois.
Alors, c'était la voix de Mathieu Tessier. Bonjour. Qui est avec nous, bien sûr, en ce mardi, pour sa chronique « La toponymie d'un accentué ». Bonjour Mathieu. Cri-cri.
Bonjour Arlette. Bonjour tout le monde, salut Nicolas.
Alors, Nicolas est avec nous, bien sûr. Donc, on va recevoir en première partie d'émission le guitariste classique Jasmin Lacasse-Roy pour son nouvel album « Météore ». Joli, hein?
Oui, parce que je pense que je l'ai déjà entendu au Festival du Domaine Forgé.
Eh bien, on va lui en parler classique. Dans un instant. On va partir en musique avec un morceau à lui qui s'intitule, un morceau de l'album qui s'intitule Mélodivagation. Oui, alors nous sommes avec Jasmin Lacasse. Bonjour Jasmin.
Bonjour Madame Sarah.
Oh non, bah, appelez-moi Arlette. Hein. Oulala, mon Dieu, ça va commencer mal entre nous.
Mais on pourrait l'appeler docteur.
Jasmin Lacasse. Oui, ah
ben,
oui.
Oui, parce qu'il y a un docteur, en interprétation à l'Université de Montréal.
Ouais.
Oui, en effet, oui.
Félicitations. Oui. Alors, Jasmin, il faut vous dire que quand je connaissais votre nom, guitariste classique. Moi, le classique, c'est pas la tasse de thé que je préfère au monde. Mais par contre, quand j'ai écouté votre album, ça, j'aime beaucoup.
Ah, ben tant mieux.
Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que il est dit dans ce qu'on dit de vous que vous avez un large éventail d'inspiration, mais j'ai envie de dire vraiment large. Hein.
Oui, en effet. J'ai une formation classique, c'est ça. Ça m'apporte une technique solide, puis un peu une richesse d'interprétation. Mais une de mes premières influences, ça a été Jimi Hendrix quand j'ai commencé à prendre la guitare.
Je reconnais mieux là-dedans. Je me reconnais mieux
c'est
là-dedans.
C'est ça, tu sais. Oui. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu les canons classiques aussi. Je suis un grand admirateur de Debussy. Mm. Donc, pour moi, un peu, cet album-là, c'est ce mélange-là entre... D'abord, j'ai toujours trouvé que la musique impressionniste et la musique traditionnelle blues américaine avaient beaucoup de choses en commun dans les caractéristiques musicales qu'elles avaient. Le fait que c'est pas... que c'est très subjectif. On va pas rentrer dans la technique, mais ils vont pas essayer d'affirmer une tonalité un peu comme Mozart. Il y a rien de mal là-dedans, mais c'est un autre genre, donc... toujours une suggestion pour que l'auditeur puisse compléter avec son imagination, si on veut.
Oui, parce que vous avez mis là, sur votre site, et c'est vrai, j'ai trouvé la question intelligente et jolie. Quel est l'intérêt d'évoquer le passé s'il ne peut pas résonner dans le présent?
Exactement, exactement, oui.
Et j'ai trouvé ça très... Ça allait bien avec l'album qu'on écoute. Allez-y.
Oui, c'est pour ça que c'était mon but dès le départ, avant même de composer une seule note, c'était que ce soit moderne. Je ne voulais pas m'imposer une structure de phrase qui est classique, qui est très bien. Là. Mais c'est pas ça que je voulais pour cet album-là. Je voulais quelque chose de plus adapté à la réalité qu'on vit. Donc, je voulais quelque chose des pièces très courtes, 3 minutes, aller droit au but, puis que ce soit intéressant à chaque tournure de phrase, à chaque changement de section. C'était mon plan dès le départ.
Alors, cet album fait un hommage au quartier que vous habitez, et dans les deux autres morceaux que je me suis permise de choisir, il va y avoir, je vais le dire le titre en français, hein, Les aventures du cow-boy de la rue Clark à la taverne du Myland.
C'est mon influence. Je suis aussi un admirateur de Salvatore Dali. Il y a une période des années 40 où il y a ces titres pour
les titres, oui.
Écoute, il décrit exactement chaque aspect de la peinture. Ça prend une page juste pour le titre. Donc, j'adorais ça. Ça me faisait très rire. Donc, pour certains titres, j'ai fait ce...
Mais en plus, j'ai craqué sur le morceau, quoi. J'ai vraiment aimé le morceau.
Ah,
c'est pas sur le titre que j'ai craqué. Je vous le dis, je vous donne le titre comme il a été en français, mais c'est les morceaux que j'ai choisis à l'écoute. Voilà.
Je suis content parce que c'était une des compositions que j'aurais cru que ça aurait été une des mal-aimées un peu de l'album.
Ah bon?
Ce qui est tellement étrange. C'était mon impression au départ, mais tant mieux si c'est pas le cas.
Moi, en tout cas, elle m'a fait... Elle m'a plu. Et la deuxième qui m'a plu, alors là, excusez-moi, parce que moi, l'anglais, c'est pas mon truc, c'est The Nostalgic Chronicles of Count Rachmanoula.
Oui,
c'est les chroniques nostalgiques du comte Rachmanoula.
Eh bien, c'est vraiment un bon morceau aussi.
En fait, je suis content, celui-là aussi, je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup aussi personnellement. C'est vraiment... un parallèle entre le Myland, ça a été beaucoup influencé par l'époque victorienne. Il y a encore beaucoup de vestiges de l'époque victorienne dans les parcs, dans les édifices, toutes les constructions dans la ville, dans le quartier. Et donc, je m'imaginais quand j'ai composé ça, une espèce de conte, de vieux conte dans son manoir avec son... devant son feu de foyer avec son brandy qui se remémore tous les épisodes qu'il y a eu dans sa vie.
Ah ben on va l'entendre d'ici quelques minutes. J'ai beaucoup aimé ces deux-là, mais tout l'album est bon, je le signale aux auditrices, aux auditeurs. Après, il fallait faire un choix, donc je me suis fait plaisir.
C'est ça qu'il faut.
Et voilà. Quelque chose à demander avant qu'on
En fait, j'ai est-ce que vous jouez avec une guitare 6 cordes?
6 cordes, oui.
OK.
Ouais.
Parce que je sais qu'il y a plusieurs guitaristes dans ce style de musique-là qui vont jouer avec une 7e corde. Mais je me demandais juste... parce que à la première pièce qu'on a entendue, on sent que c'est une 6 cordes, mais les autres pièces, c'est tellement complexe et vous allez un peu partout sur la guitare que je me demandais si vous n'étiez pas à rajouter une 7e corde. Voilà.
Ouais, non, c'est ça. Non, c'est tous ces effets sur la guitare qui donnent l'impression
Bravo.
C'est plus gros que c'est vraiment.
Alors, moi, je ne vous poserai pas de questions intelligentes comme ça, étant donné que je n'ai jamais touché une guitare de ma vie. Je me suis juste contentée d'écouter. Alors, on va écouter les chroniques nostalgiques. Ça me va bien mieux de le dire en français, d'ailleurs.
Oui.
Et puis, on en reparle. D'ailleurs, juste un petit rappel de ce qu'on a écouté. Mélodie Vagation.
Oui.
Divagation, donc. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on écrit au moment où on rentre à 5h du matin ou...
Ah, à peu près, oui.
Quand on se réveille à 5h du matin.
C'est à peu près ça. C'est un poème impressionniste, vraiment, sur la nuit dans le Myland. Après que les gens nocturnes soient allés se coucher, puis avant que les gens matinaux soient levés.
Ah, c'est bien ce qui me semblait, j'ai bien trouvé l'heure.
C'est vrai que c'est le moment le plus tranquille.
J'ai exactement compris.
J'ai toujours trouvé que cette heure-là est la plus tranquille. 4 heures du matin dans une ville, parce que les fêteurs sont rentrés et les travailleurs ne sont pas encore sortis.
Donc, 4 heures du matin, ils sont rentrés pas tout à fait, c'est plus 5 heures, mais entre 5 et 6, quoi.
Autour de 4 heures, je trouve que c'est un bon moment pour prendre des marches.
Ah, exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un moment spécial, il y a quelque chose de différent.
Oui.
Alors, on écoute le morceau et puis on revient tout de suite après avec vous.
Parfait, merci.
Et voilà, Jasmin Lacasse-Roine, nous sommes de nouveau ensemble. Qu'est-ce que j'aime ce morceau? Est-ce que vous connaissez un endroit en Europe, qui, une région de France qui s'appelle la Corse.
Oui, je connais, oui.
Ça, vous ne pouvez pas savoir, comme dans ce morceau, il y a certains moments qui me font penser à cet endroit que je connais très très bien et où vit une partie de ma famille.
Ah oui.
En fait, vous avez fait voyager Arlette parce que pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression qu'elle n'était plus en studio. Je me suis dit, ça y est, elle est au soleil, sur le bord de la mer.
Voilà, c'est ça. Non, il y a des...
Peut-être que le
conte... Il y a certaines sonorités qui m'ont fait penser à ça.
Peut-être que le conte est corse et qu'il vit dans le Maryland.
Ah bah peut-être. Peut-être qu'il l'était. Alors, tu avais une question,
oui,
Mathieu?
Oui, en fait, je regardais la liste des concours auxquels vous avez participé, comme par exemple le concours Musique du Canada, le Clermont-Pépin, le Musique du Bas-Richelieu. Est-ce que c'est une partie du travail de guitariste qui vous plaît ou est-ce que ça sert principalement à se faire connaître, les concours? C'est deux questions.
Oui, ben c'est peut-être ça va peut-être avec mon caractère. J'aime ça les compétitions. C'est un peu, c'est pas par rapport aux autres, c'est toujours par rapport à toi-même. Comment tu peux pas faire mieux que toi. Puis c'est un peu, je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise. J'ai commencé les concours très tôt. Je pense que je jouais de la guitare depuis un an et demi, puis je commençais déjà les compétitions. Donc
tabarnouche.
Donc ça fait très longtemps. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce challenge avec soi-même, là. Toujours vouloir s'améliorer, toujours faire mieux, toujours aller plus loin d'où est-ce qu'on ne peut pas aller. J'imagine qu'un golfeur dirait la même chose. C'est toujours ce défi-là, c'est un combat contre un combat. Toujours un duel contre soi-même dans un sens. Là, donc, ouais.
Est-ce que vous pouvez faire des concours? Est-ce que vous verriez faire des concours toute votre vie?
Non, il y a une limite. Non,
une limite d'âge ou une limite...
Oui, une limite d'âge souvent dans les concours, oui.
C'est vrai? Ah oui?
Oui.
Parce que je voyais le prix d'expression de la Ville de Québec, c'est un prix que je connais pas. Je sais pas si tu le connaissais.
Ah non, non.
C'était au Cégep, je suis allé au Cégep, dans la région de Québec, c'était un prix qui était associé au Cégep.
OK.
Ah, vraiment, vous avez commencé tôt en avant, c'est pour ça que la liste était aussi longue de vos prix.
C'est pour ça, ouais.
Je dis ouais.
Ben oui, le prix Thérèse Filion, je pense que vous avez reçu pour la meilleure performance aussi. Fait que, donc,
ouais,
vous avez beaucoup de pratique.
Pépin, ouais.
Est-ce que c'est une. Je connais pas Thérèse Filion, je sais pas si. Est-ce que c'est quelqu'un qui a rapport avec la musique ou.
Ben, c'était au concours Clermont-Pépin. C'était une sœur qui a. Je pense que c'est elle qui a parti le concours Clermont-Pépin puis l'a géré pendant plusieurs décennies. Puis elle a aidé au fleurissement de la musique classique dans la Beauce.
OK.
Alors, revenons à l'album Météor et au Maryland. Pourquoi cet hommage? Et puis comment... Bah d'abord, je comprends aussi parce que vous y habitez, le lieu, et puis c'est un quartier qui fait rêver, en tout cas, qui est spécial, je trouve, aussi.
Oui, ben c'est mon arrivée pour mes études à Montréal, au conservatoire. J'ai déménagé dans ce quartier sans savoir c'était quoi exactement.
Puis... Ah!
Tout de suite, quand on sort dehors, on sent l'ambiance. Il y a un esprit spécial dans le quartier. Puis c'est ça, tout de suite, ça a fité avec ma personnalité artistique, avec moi. Donc, je me suis senti à la maison très, très facilement dans ce quartier. Puis je trouvais ça un super concept de faire comme un peu, comme je disais tantôt, comme une peinture impressionniste avec cette ambiance-là, puis juste créer de la musique qui va suggérer plusieurs choses à travers cette ambiance-là.
Comment ça fonctionne quand vous écrivez quelque chose? On dirait, d'après ce que je vous entends quand je vous entends parler, que vous partez d'une lecture, d'une histoire, et puis la musique vient comme ça? Ou comment ça se passe, votre système d'écriture?
Je n'ai pas un système, c'est ça. Ça arrive en quelque sorte. Je dirais qu'il y a deux façons pour cet album-là que les pièces sont venues. C'est soit par le titre en premier, comme L'hiver Maryland, la dernière pièce de l'album. J'étais en conversation avec quelqu'un, puis je ne sais pas, un ou deux a sorti cette phrase-là, L'hiver Maryland. Ça m'est resté dans l'esprit. Puis plusieurs semaines plus tard, plusieurs, peut-être même mois plus tard, je donnais un concert, un petit concert dans le Maryland. Il y avait une grosse tempête au mois de mars. Il y avait tombé au moins 30 cm de neige durant la journée. Là, de paix et misère, je me suis rendu à la petite salle de concert. Puis pendant que je donnais le concert, il s'est mis à pleuvoir. Donc, quand je suis sorti, toute la neige était recouverte de glace. Donc, ça donnait un paysage absolument incroyable. Et quand je suis rentré chez moi après le concert, donc ce terme-là, hiver Milan, m'est revenu avec la tempête. Ça m'a comme inspiré cette composition-là.
Vous prenez...
C'est une belle histoire à chaque fois.
Comment vous prenez des notes? Parce que, comme par exemple, quand un auteur prend des notes, il sort un calepin et il écrit. Voilà. Mais pour un musicien, j'imagine que vous ne traînez pas toujours votre guitare.
J'avoue que là, non, c'était surtout à la guitare que j'ai eu les idées pour musicales. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que je ne voulais pas les écrire.
OK. Parce que des impressions, oui.
Je voulais que les meilleures idées me restent. C'est-à-dire, si je compose quelque chose, quelques phrases, si deux semaines plus tard, je ne m'en souviens pas, ça veut dire que c'était passé, c'était passé bon.
Ah, d'accord.
Donc, c'est ça. Fait que si trois semaines plus tard, je m'en souviens, ah, là, ça veut dire que ça peut captiver, ça peut attirer l'attention. Puis ça, c'est des idées que je continue de travailler pour l'album.
Alors, parlons aussi un petit peu de la troisième chanson qu'on va entendre au moment où on se quittera à la fin de cette entrevue. Je le redis parce que j'adore le titre. Autant ce morceau m'a fait craquer quand je l'ai écouté, mais quand j'en ai lu le titre en français, ça m'a beaucoup fait sourire aussi. Les aventures du cow-boy de la rue Clark à la taverne du Myland. J'avais l'impression de voir déjà un film.
Oui, ben c'est exactement ça. Je l'ai fait comme une histoire. En fait, c'est qu'au 19e siècle, en fait, le Myland, c'était surtout des fermiers, c'est à croire, mais puis il y avait une taverne qui était au coin de Mont-Royal, qui n'est plus là, mais qui était à l'époque au coin de Mont-Royal et Saint-Laurent, qui s'appelait la taverne Myland. C'était apparemment une taverne très fameuse où ça brassait beaucoup. Il se passait toutes sortes de choses. Donc, ça m'a fait imaginer l'histoire d'un cow-boy. Le motif de départ de la pièce, c'est qu'il est sur son cheval au galop. Et puis, par la suite, il termine sa journée de travail. Il décide d'aller prendre un verre à la taverne Myland. Donc là, il se rend là. Mais, il se met un peu dans l'embarras avec d'autres...
Une bonne bagarre pour précéder un bon verre, quoi, c'est ça.
Pour se réchauffer.
Donc là, il doit se sauver de la taverne, mais il y a une grosse tempête de neige. Il doit se réfugier dans une grange, puis il s'endort. Il rêve un peu à la belle qu'il a laissée dans le village d'à côté. Puis il se réveille, la tempête est terminée, il rembarque sur son cheval, puis au soleil couchant, il quitte... la ville.
Je pense que mes marches au Myland ne seront plus les mêmes.
Plus jamais les mêmes, oui. En s'y promenant, ça va donner un tout autre changement. Donc, ce nouvel album s'appelle Météor. Et c'est vrai que c'est vraiment... Bon, moi, je vous ai offert à vous, amis, auditrices et auditeurs, les trois morceaux qui m'ont touché le plus. Mais il y en a d'autres, il y en a tout plein d'autres à écouter aussi. Et puis, c'est un moment, comment dire, je l'ai écouté non pas pour l'écouter parce que vous veniez, mais je l'ai écouté pour mon plaisir. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire avant de vous quitter.
C'est le meilleur compliment.
Bravo pour tout ça. Donc on vous souhaite plein de... je ne sais pas si vous allez pouvoir remonter sur scène ou pas. Enfin, écoutez, on vous souhaite plein
J'espère, parce que c'est un autre aspect des pièces quand je les ai composées.
Oui.
Il y a plein d'endroits qui sont propices à l'improvisation puis à adapter la pièce au moment présent avec l'histoire. Donc, j'espère beaucoup.
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Bonne continuation. Et puis, on part en musique avec le cow-boy. Au revoir.
Merci beaucoup.
Jasmin.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Au revoir. Thank you. restez avec nous, Mathieu Tessier, dans la prochaine demi-heure. Grand plaisir, Mathieu.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressobre. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbon. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Ah, Père Brassens.
Ah oui, qui nous chantait ?
Le vin.
Alors, une entrée en matière à ta chronique ?
Je pense que oui, en fait, je pense. Oui, non, c'est effectivement...
Je pense donc j'y suis.
Je pense donc j'y suis. Cette semaine, je pourrais commencer, en fait, en vous posant quelques questions d'un jeu très populaire ici, qui a perdu un peu de sa popularité, mais qui est tout de même. Quelques arpents de piège.
Quelques arpents de piège, oui, voilà. Tu me regardes, je connais pas. Shoot.
Quel écrivain français a fondé le journal Les Libérations? Un de vous deux a une réponse. Un écrivain assez connu français.
Oui, mais je suis pas tout à fait sûr de moi, alors je ne veux pas me risquer à dire une bêtise étant donné que je suis française.
Grave. C'est le but du jeu, d'ailleurs. Quelques arpents de piège, c'était Jean-Paul Sartre. Autre question, quel âge avait Léonard de Vinci quand il a achevé de peindre la Joconde? Et là, à 3 ans près.
82.
Non, la moitié. Presque.
Moi, j'aurais dit 26.
Ah, dans un petit... c'est 55 ans.
J'avais aucune idée.
Ça ressemble à ça, quelques arpents de piège.
Il fallait prendre mon excessivité, moins tard.
C'est ça, exactement.
Et où fut ordonnée la première femme prête? Au Brésil, en France, à Hong Kong ou en Italie?
France.
Bon, en Italie, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Ça serait le truc le plus vraisemblable. À Hong Kong.
Voilà. Ouais. Mais en fait, je pourrais continuer comme ça, mais avant de continuer, afin de poursuivre, laissez-moi vous clamer un peu de poésie.
Clame.
À la marquise du Châtelet. Ainsi donc, sans beauté nouvelle, vont fixer vos brillants esprits. Vous renoncez aux étincelles, au feu follet de mes écrits, pour des lumières éternelles. Et le sublime mot pertuis vint t'éclipser mes bagatelles. Je n'en suis fâché ni surpris. Un esprit vrai est épris pour des vérités éternelles. Mais ces vérités, que sont-elles? quel est leur usage et leur prix. Du vrai savant que je chéris, la ferme, ou la raison ferme et lumineuse, vous montrera les cieux décrits, et d'une main audacieuse, vous dévoilera les replis de la nature ténébreuse. Mais sans le secret d'être heureuse, il ne vous aura rien appris. C'étaient les mots de Voltaire, qu'il écrivait dans ses épîtres, stances et odes. Mais pourquoi citer l'immortel si je te parle, Arlette, Nicolas et vous, chers amis, dans ma chronique des lieux du Québec et de leur surnom? Eh bien, pour ça, il faut blâmer le vin. Oh, le vin.
Ah bon, parce que c'est à cause du vin, c'est d'avoir trop bu de vin que ça donnait, on trouvait un surnom à une ville, c'est ça que tu veux dire?
Non. La destination d'aujourd'hui, c'est Dunham, qu'on appelle le berceau de la viticulture pardon, québécoise. Le vin, ce jus, ce mou, ce pinard, cette piquette, cette vinasse, ce picrate, ce tortue, ce tutu, ce jaja, ce grand cru, ce pipitcha, ce picton ou ce picheton, ou ce pif par lequel on se camfre la ruche. Il va sans dire que pour le vin, les Français ont quand même, comme dirait l'autre, ils l'ont l'affaire. La France n'est-elle pas le pays du vin?
Enfin, le pays du vin, elle l'a été.
Exact, parce que maintenant, elle est détrônée par l'Italie. Savais-tu, ou saviez-vous, que la production mondiale de vin est estimée à 250 millions d'hectolitres.
Oh mon Dieu!
Hectolitres, c'est 100 litres.
Oui.
Ce qui représente 16 666 666 bouteilles de 75 centilitres. L'Europe, donc, domine le classement avec l'Italie en tête, avec ses 55 millions d'hectolitres, la France qui suit avec ses 49 millions d'hectolitres et l'Espagne, pour terminer le trio en tête, avec 44 millions d'hectolitres. Les États-Unis arrivent quatrième quand même, avec un certain fossé entre les deux, entre le 44 de l'Espagne. Les États-Unis arrivent à 24 millions d'hectolitres.
Est-ce que je vais dire une horreur, mais il me semble qu'aux États-Unis, quand ils ont planté, les cèpes venaient d'Europe, non?
Oui.
C'est tout ce que je voulais dire.
Mais c'est pas. Non, c'est. Et qu'en est-il pour le Canada? Hein? La production au Canada et au Québec. En 2020, la production canadienne s'élevait à. Roulement de tambour, imaginaire dans ma tête, mais sur ma tête, puisque j'ai une tête de bongo, comme dirait l'autre. 0,27 % de la production mondiale, selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, avec 71 millions de litres. On parlait d'hectolitres tantôt. Là, on produit au Canada 71 millions. Et le Québec? Bon, le Québec, le vin au Québec, c'est 134 vignerons. La moitié sont établis dans la Montérégie. Intéressant de savoir.
Ah, okay.
Il y a 558 hectares de production. Je vais nommer beaucoup de chiffres, mais je trouvais ça intéressant, moi qui ne suis pas mathématique, pour deux sous, roulement de tambour encore une fois. La principale association de vignerons du Québec, donc le Conseil des vins du Québec, la CVQ, déclare 2,3 millions de bouteilles vendues. Et le Québec en produit 3 millions. Donc 40% sont du vin blanc, 35% du vin rouge, 16% du vin rosé, 6% du vin mousseux et 0,6% de vin de glace.
Il n'y en a que 0,6%.
Ouais, ouais.
Ah, c'est étonnant, je croyais qu'il y en avait plus.
Moi aussi, effectivement, je l'aurais mis peut-être.
La publicité faite là-dessus est plus importante, alors plus intense que pour les vins.
Je l'aurais mis en deuxième après le vin blanc. Oui. Il me semble que dans ma tête. Et les cépages que l'on retrouve au Québec sont le Frontenac noir. Là, j'ai l'air de connaître le vin, mais c'est des choses que j'ai apprises sur Internet. Là. Frontenac, je sais c'est qui, mais le Frontenac noir, le Vidal, le Céval blanc, la Marquette, le Frontenac blanc, Frontenac gris et le Pinot noir. Et on me dit que le Frontenac blanc et le Pinot noir seraient en forte progression, enfin. Et puis les ventes totales du Québec sont donc de 230 millions de bouteilles, quand même, selon les chiffres de la SAQ, dont 55 millions sont écoulés en épicerie. Donc, Dunham, les Dunhamiens et Dunhamiennes qui étaient en 2017 au nombre de 3524 peuvent être très fiers de leur région qui, au fil du temps, a vu les vignobles, venir s'installer dans la région, dont leur pailleur, qui a été un des premiers, qui est arrivé au début des années 80, qui est probablement le plus connu de nos vins québécois et qui est très bon aussi d'ailleurs. Je n'en ai pas apporté, je pensais que...
Ah, dommage.
Ben, je pensais que tu allais me le dire, me demander où est la bouteille, Arlette.
Mais, j'allais, mais je n'ai pas fait la question. Pour une fois, je t'ai laissé arriver à me présenter un endroit sans que je sache où c'était. Et là, j'aurais dû le faire parce que je t'aurais demandé le vin. J'aurais amené le fromage.
Ouais.
Enfin bref, c'est
fois.
Pas grave.
Et puis, sachez que Dunham fait partie de... Ou c'est l'un des points d'intérêt pour les amateurs de vin lorsqu'ils parcourent la route des vins de l'Estrie, qui est aussi un parcours très connu. Ça, vous allez visiter 20 vignobles. Il y a 4 circuits routiers pour admirer les fameux paysages de cette région-là. Il y a 4 circuits à vélo aussi pour tous les niveaux. Donc, vous pouvez faire du vélo, aller prendre un verre de vin, continuer votre vélo.
Après avoir fait du vélo.
Non, pendant.
Ah, pendant.
C'est, oui. Puis les routes sont sinueuses. C'est parfait. Et puis, il y a une vingtaine de restaurants aussi. Alors, puisque... Pourquoi? Oh! Et je suis déjà rendu à la fin. Pourquoi j'ai parlé de Voltaire? C'est parce que Voltaire, dans son livre « Quelques arpents de neige », avait exprimé, en fait, son évaluation dépréciative de la valeur économique de la Nouvelle-France. Ce qu'il avait appelé « Quelques arpents de neige ».
D'accord.
Et terminons avec une dernière question que j'ai bien aimée. De quel poète français du début du 20e siècle est ce vers? Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers.
Oh, c'est beau, je ne connaissais pas.
Bon, ben après la chanson, je vais vous donner la réponse.
OK, alors nous partons avec
Fred,
qui nous chante « Message ».
Je te laisse un message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que les fous qui changent pas. Je voulais juste te dire l'autre soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, j'étais juste bête. J'avais juste peur de te perdre. Me retrouver seul comme une lune sans terre. Ou comme un joueur de foot sans terre. Pour toi, je peux courir sans terre. Dis-moi pas que je suis comme les autres. Ça briserait ma tête et après mon ego. Ça briserait le cœur d'enfant que j'ai gardé depuis petit. C'est-à-dire celui fait en l'ego. Et je fais tant l'égoïste. Quand je parle de moi, 10 minutes d'appel. Et je parle que de moi, mais je veux pas te frayer. À parler nous, je voudrais pas que tu veuilles que je parte loin. Et j'avoue que tu tournes dans ma tête. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Ouais, s'il te plaît, réponds. C'est le 15e message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête, hein? Fallait que je te dise, j'ai jamais trouvé à travers d'autres filles. J'ai trouvé des folles, j'ai trouvé des on se voit bientôt sans jamais redonner d'autres suites. Tu me prends pour un con, tu me prends pour le genre de gars qui se remonte l'ego en faisant un son qui accumule. Et bravo, je t'adore, t'es super en guise de trophée. Au fond, t'as raison. J'avoue que tu tournes dans ma tête. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Ouais, s'il te plaît, réponds. C'est le 100e message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête? Wow, 20 secondes top chrono. C'est tant que ça prend pour me répondre. 2 ans, 3 semaines, 4 heures, 16 minutes. Ça, c'est tant que ça m'a pris pour attendre. Une chance que je suis patient. Me dis pas que j'ai tourné la page. Alors que t'as déjà brûlé le livre. C'est le 100e message que je laisse sur ton répondeur. Alors que ça fait des mois que le mien il est vide. Je te laisse un message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête?
Allez, Mathieu, c'est à toi.
Oh là là,
deuxième partie d'aventure. Doulou, doulou,
Nicolas, es-tu prêt à participer?
Oui.
N'oublie pas ton micro. L'expression épais.
Je suis ton fils.
Bon, je sais que tu lui parles.
Je suis ton fils. Je pense pas que c'est la bonne.
Dark Vador.
Je pense pas qu'il dise je suis ton fils, mais c'est pas grave. On va constater avec Mathieu.
Je pense que j'ai pas vu les films dans le même ordre que toi, je pense. Non, l'expression épais comme dans le plus mince.
Épais comme dans le plus mince.
Ouais.
Alors, j'ai jamais entendu cette expression.
D'accord.
Alors.
Moi non plus.
Ça me fait plaisir.
Est-ce que ça veut dire se rendre des centaines de fois à l'hôpital le soir du jour de l'an? Parce que votre premier client, Nez Rouge, est un ambulancier qui aime beaucoup le brandy? Non? OK.
J'espère que non.
Je m'imaginais la scène où je travaillais pour où j'étais bénévole pour Nez Rouge et je travaille le soir de la Saint-Jean et c'est un ambulancier qui boit, mais je dois conduire l'ambulance à sa place. Je trouvais ça fort sympathique. Je pense que je vais faire un film là-dessus. Non. Est-ce que ça veut dire remplir ses poches de mégots de cigarettes pour recréer le Morning Glory? Est-ce que vous connaissez le Morning
non.
Glory? Le
Moi
Morning
non.
Glory est un immense nuage. Ils appellent ça un mascaret atmosphérique qu'on peut parfois apercevoir sur les côtes de la Nouvelle-Écosse.
D'accord.
C'est une espèce de long nuage que les photographes adorent. Ou est-ce, épais comme dans le plus mince, la traduction de cucu la praline? Ça, c'est pour toi.
La 3.
Eh bien, oui.
La 3, je l'aime.
Que veut... ah, ben, je te ferai pas... Je voulais te demander que voulait dire cucu la praline, mais... Je te voyais prendre un verre d'eau.
Ben, cucu la praline, c'est un peu bête, quoi.
Oui, voilà.
Un peu bête. C'est un peu niais.
Épais comme dans le plus mince. L'expression « partir comme un petit poulet
». Ça me parle de vitesse.
D'accord. Est-ce le fait de se promener dans un endroit huppé avec coincé sous la semelle du papier de toilette, mais triple épaisseur, parce que quand même, on le vaut bien, non? Ou est-ce l'odeur persistante qui imprègne tes vêtements après avoir cuisiné pour la première fois un couscous cosmique, comme dirait mon neveu? Ou est-ce nous aimerions mieux mourir chaque heure de la crainte de mourir que mourir une seule fois? Nous disait Shakespeare, je répète, nous aimons mieux mourir chaque heure de la crainte de mourir.
J'ai rien compris, Nicolas.
Et c'est pour ça que je répète. Je vais répéter la prochaine fois. Ou est-ce, à force de tout vouloir comprendre, on finit par mourir en colère? Ou mourir de mort naturelle après être né accidentellement? Quelle revanche? Ou encore, partir comme un petit poulet? Ce qui chagrine, ce n'est pas de quitter la vie, mais de quitter ce qui lui donne un sens.
Oh ben, je vais partir sur cette phrase-là, parce que c'est la seule que j'ai compris et que j'aime.
Partir comme un petit poulet, ça veut dire de mourir tout doucement.
Ah!
Wow!
Oh là là!
Vous viendrez à mon spectacle, je vous veux dans la première rangée. Wow! L'expression « se poigner le moine ».
Ça commence bien.
Est-ce que c'est... pour se gratter, faut-il toujours que cela nous pique? Non. Porter des bas de cuir et tourner en rond dans l'espoir de contrer l'écoulement laminaire. J'ai lu les carnets de Da Vinci pendant les vacances. C'est des remous, en fait. Ils appellent ça des écoulements laminaires. Ou à quoi bon remettre à demain ce qu'on peut faire avec ses pieds, nous disait Maurice Roche.
Ah, ça, j'adore.
Se pogner le moine.
Remettre à demain ce qu'on peut faire avec ses pieds. Je ne s'affiche trop rien, mais j'ai envie de celle-ci, de la 3.
Mon Dieu, mais vous êtes en feu, chère Arlette. Justement, péter le feu.
Péter le feu.
L'expression péter le feu.
Oui.
Est-ce que c'est se mettre beau dans des draps sales, se mettre à nu dans de beaux draps, ou être assez en forme pour se sortir des deux situations précédentes?
Ben, c'est la 3.
Bien sûr.
Ah, barnouche.
Passer dans le beurre. L'expression passer dans le beurre.
Je suis pas un maïs.
Non, pas du tout.
C'est pas ça la réponse.
Non.
Ah, c'est pas ça la réponse.
Non, 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 non. Est-ce que c'est l'incapacité de compter les flocons de neige similaires quand on prend un grand verre de gin pour se donner un peu de courage avant un examen proctologique? Ou évaluer, trouver et maintenir une distance sécuritaire avec une personne qui nous est hostile à l'aide d'une hygiène épouvantable? Ça aide dans le métro,
oui,
garder sa place. Ou c'est rater son coup lorsqu'une personne souffrant d'une galanterie d'un autre siècle t'invite à déjeuner avec elle et que sans comprendre le sens véritable de sa phrase, tu lui dis « je préférais qu'on soupe ensemble ». Passer dans le beurre.
La 3?
Moi, j'aurais aussi allé voir la 3.
Vous êtes bon. Ben oui, c'est rater son coup.
Ouais.
Se faire brasser le canadien.
Ah, oh bah alors, écoute, t'as des expressions qui donnent des images qui ne sont pas du tout les réponses, mais bref.
Ah.
Alors, allons-y.
Une des nombreuses activités qu'on peut faire avant d'aller voir un show de musique dans une cuisine, quand celle-ci est rangée, quand la vaisselle est faite, quand les lunchs sont préparés et que le vin est débouteillé, mais surtout que les enfants ne sont pas encore nés. Non. Hey, c'est un slang militaire qu'on a utilisé pour la première fois durant le débarquement de Normandie, surtout par les Canadiens qui portaient la moustache réglementaire, la moustache canadienne réglementaire, et qui s'attendaient à du brasse camarade. Non? Se faire brasser canadien. Ou, si je vous dis houspiller, gourmander ou encore tenser. Non? Faire engueuler comme du poisson pourri.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est laquelle? C'est ça.
Eh bien, c'est houspiller, faire gourmander, voilà.
C'est la 3 ou il reste 3 minutes?
Les deux!
Les deux!
Les deux, mon capitaine!
J'ai gagné des prix. Mais oui, c'est effectivement ça, c'est se faire engueuler.
Eh bien, on est trop bon, Nico. Une petite dernière?
Une petite dernière?
Pour la route?
Donner son accord.
Ben,
je donne mon accord.
Je pense que ça
je viens
de
dire la réponse. Je vais passer à l'autre parce que j'ai mal lu. Excusez. Ah, j'ai chaud. Percer des dents.
Ah, ben oui, ben c'est les bébés quand ils commencent à avoir les gencives qui doublent.
Au Québec, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire avoir une conversation franche et constructive sur les relations internationales avec les fleurs Fanny d'une librairie à vendre dans Verdun? Ou est-ce le fait d'être incapable de compter à voix haute jusqu'à 23 quand on a le palais ou l'intérieur des narines tatoué avec une machine à écrire? Je cherche un peu loin, celle-là. Ou est-ce 3, tout le monde peut se mettre en colère, mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui il mérite au moment et durant le temps voulu, nous disait Aristote.
Ben, c'est la 3.
Je pense que je devrais arrêter de mettre mes réponses en troisième.
Oui, hein, parce que moi, j'avais aucune idée, mais je me suis dit, à date, ça tourne souvent la 3, donc mais là avec la 3.
Ah non, mais là, parce que le texte y allait aussi. Mais bref. Ben écoute, merci pour tout.
De rien.
On a fait un sans faute,
ouais,
avec Nico.
Je suis déçu. J'ai raté mon coup ce soir.
Là, Mathieu Tessier.
Ça, mesdames et messieurs,
le bruit de la corne, c'est qui tombe comme ça.
J'ai un trombone.
Non,
tu l'as pas.
Attends.
Faudrait qu'on le trouve pour Mathieu pour lui dire que. Ben,
j'ai quelque chose de parfait.
Allez, vas-y.
Mais tu sais ce qui va se passer, hein, je vais l'entendre toute la semaine.
Vas-y.
C'est ça. C'est un rire sarcastique.
Avec des Ukrainiens par la suite.
Heureusement que tu nous le précises parce que sinon on aurait été mal. Bon, ben ça fait rien. Comme t'as tout perdu, Mathieu. On va quand même te faire un cadeau.
D'accord.
Voilà, la dernière chanson. Et t'as même le droit de l'annoncer.
Murmuro, aussi.
Qui chante?
Kosari Kosiat.
Ouais, allez, on y va.
Kosari Kosio, tio veter, pove vokoye, shovkova trava. Шовкова трава на косу налягає, що первий косар до галочка питай. Що первий косар Oh.
Et voilà. Donc là, on est à la fin de cette émission. Et comme dans les trois personnages qui sont là, c'est-à-dire Nicolas, Mathieu et moi-même, il n'y a que Nicolas qui suit. Donc lui s'est rendu compte qu'à un moment, dans la chronique de Mathieu, nous n'avons pas répondu à une question.
Non,
quelle était cette question, Mathieu?
De qui vient ou de qui sont les vers suivants? Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers.
Eh bien, je n'en sais fiche trop rien.
J'aurais pu rajouter « J'ai soif, ville de France et d'Europe et du monde. Venez toutes couler dans ma gorge profonde. Je vis alors que, déjà ivre dans la vigne Paris, vendanger le raisin le plus doux de la terre, ces grains miraculeux qui aux treilles chantèrent. »
Alors, c'était qui?
Guillaume Apollinaire.
Ah, Guillaume Apollinaire.
Oui.
Bah alors, bien sûr, je le savais.
Dans son
c'est
poème « Vendémiaire ».
Voilà. Alors tiens, en parlant de mensonges, pour ceux qui nous ont suivis, alors je fais très vite, en début d'émission, j'ai traité Mathieu de criquet, mais ça n'avait rien à voir avec le petit criquet, c'était juste parce que j'avais l'image de Jiminy Criquet, mm-hmm. qui sur l'épaule de qui on sait, hein, qui est toujours de Pinocchio, qui est toujours en train de mentir, et comme sa conscience, et c'était parce que je te reconnaissais comme ma conscience. Voilà, je voulais
Je réitère la phrase que j'ai dit. Je ne me suis jamais fait non plus traiter de... Non,
de Jiminy Criquet.
De Jiminy Criquet, ni de la conscience de quelqu'un d'autre.
Bon,
on me demande souvent où est la mienne, d'ailleurs. C'est étrange.
Quelle émission absolument extraordinaire et vraiment bien construite. C'est un bonheur. On dit merci à Jasmin Lacasse-Roy pour oui. son album qui s'appelle Météore et qui est un hommage au quartier du...
Mile End.
Yeah! Ça, au moins, il l'a suivi. Merci Mathieu Tessier.
Ça fait plaisir.
Merci Nicolas Wartman pour la musique et la technique. Et puis, on se retrouve demain. Puis, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que ça a été un bonheur pour vous. En tout cas, nous, on s'est bien amusés.
Oui.
Alors, on se dit à demain. Au revoir.
Et à mardi prochain.
Et à mardi prochain pour toi. Bye bye.
Salut.